Salut Ben, comment ça va? Qu'est-ce que t'écoutes?
Salut Steph. Bon, moi ça va bien. Je viens de découvrir un morceau. Ah mais j'ai jamais entendu une ligne de basse pareille.
Ah ouais. Ouh là 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 là.
Qu'est-ce que t'écoutes en ce moment?
Bah tiens, écoute ça. Il y a une section cuivre.
Ah là, c'est morceau d'anthologie, direct. Je crois qu'on arrive.
Oui, on dirait que c'est ici.
Bonjour Stéphane.
Bonjour Jean-Baptiste.
Comment vas-tu?
Bonjour Jean-Baptiste.
Ça va,
bonjour,
merci.
Bonjour, comment ça va?
Très bien.
Ravi de vous accueillir dans mon studio.
Merci de nous recevoir.
Grand plaisir.
Ah mais tu es très bien installé, c'est un très joli studio.
Ouais, en fait j'ai beaucoup de chance, je suis dans un endroit qui est chargé d'histoire. Il y a un roi du Danemark qui a vécu là il y a très longtemps.
Ah oui.
Ouais, après ça, bon, c'est plus un hôtel particulier non plus, mais c'est un bel endroit qui est du 17e. Et qui plein de bonnes ondes pour faire de la musique. Il y a vraiment, c'est habité, mais de la bonne façon, quoi. C'est
inspirant,
pas,
donc.
Ouais, super inspirant.
C'est important.
Oui, sinon, je n'aurais pas pu rester là, quoi. Ouais. Voilà. Donc, il y a des instruments, il y a un petit studio que j'ai installé là.
Un
avec
piano.
Un beau piano. Ouais, ouais. Un beau piano, un demi-queue, ouais. Et puis, d'autres claviers, un piano droit qui est très important pour moi, parce que c'est, en fait, c'est là-dessus que j'ai appris quand j'étais tout petit. C'est un piano qui arrive de Cuba. C'est un peu piano cabaret, un peu piano punaise.
Voilà, piano bastringue,
voilà, un peu bastringue, voilà.
D'accord.
Oui, il y a quelques autres claviers. Et puis, il y a des disques aussi. Il y a des disques vinyles, tiens.
Ouais.
Alors là, je tombe sur un Pink Floyd dédicacé,
ouais,
quand même.
Ouais, complètement.
C'est quoi l'histoire de cet album?
L'histoire de cet album, c'est que quand j'étais petit, j'ai eu la chance d'habiter dans un endroit où il y avait un studio qui est devenu mythique, qui s'appelle le Studio de Miraval. Et à l'époque, c'était un lieu dans le sud de la France où mes parents s'étaient installés. Et à l'époque, mon père donc, faisait ses albums playback et il avait l'obligation, contractuelle ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas de faire un album tous les ans et demi. Et il a eu un défi complètement fou. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. C'est-à-dire qu'il n'était entre guillemets que musicien. Donc là, il est parti dans un délire complet. Mais c'était l'époque qui voulait ça. Tout était encore possible. On croyait tout au moins que tout était encore possible. Et donc il s'est mis en tête de monter un studio d'enregistrement. Au départ, juste pour ses enregistrements à lui. Et puis, à force de travailler sur le concept, tout ça, il s'est associé à un preneur de son qui était parisien, qui avait beaucoup de talent, qui s'appelait Patrice Kev. Et ils se sont dit, plutôt que de faire ce studio que pour mes albums, je vais le faire pour les gens qui voudront venir enregistrer leur album à Miraval.
D'accord.
Donc, ça a démarré comme ça. Et de fil en aiguille, le studio qui devait être donc, pas un petit studio, mais un studio juste pour un album par an, est devenu une usine à gaz avec... plusieurs centaines de mètres carrés de studio avec tout le matériel le plus high-tech de l'époque, les Nives, les SSL, tous les Studer 48 pistes, tout ça, tout ce qui existait à l'époque. Et ils ont monté un studio qui, en l'espace d'une quinzaine d'années, est devenu, il faisait partie du top 3 des meilleurs studios du monde. Et donc, pour ce faire, ils avaient utilisé tous les moyens, un agent à Londres qui justement allait essayer de séduire les grands groupes de l'époque, d'où les Pink Floyd, entre autres, hein, parce qu'il y en a eu plein d'autres. Pour essayer de les faire venir enregistrer à Miraval. Donc il y a eu effectivement les Pink Floyd, Sade, Sting, George Michael, les Cure qui sont venus. J'en ai vu un paquet. Hein. Et comme moi, à l'époque, j'étais un petit garçon qui prenait pas trop de place. J'arrivais de temps en temps à me faufiler dans le studio comme ça.
Ah ouais. Ouais.
Et j'étais en plein rêve parce que c'était ma musique secrète préférée, tout ça en fait. Voilà.
Ah bah tiens, je tombe justement sur une pochette qui moi m'a attiré, c'est clair, elle est tellement belle. Chick Corea, ouais. Return to Forever, c'est à peu près la même époque, ça doit être 72, 73,
ouais.
Avec un superbe morceau qui prend toute une face du disque, puisque Chick Corea s'est associé avec, je crois que sur cet album il y a Stanley Clark à la basse,
ouais.
Et puis Ayrton Moreira aux percussions, brésilien, avec sa femme Flora Purim au chant. Et puis c'est toujours un régal d'écouter Correa au piano aussi.
Ah, il n'y en a pas beaucoup qui m'impressionnent autant que lui. J'ai découvert, là pour le coup c'est mon père qui écoutait ça beaucoup, il était très admiratif de toute cette génération de musiciens, Keith Jarrett, Chick Corea un peu plus tôt. Ils ont amené quelque chose, hein. Il y a une technicité fabuleuse, mais ce que j'aime chez ces gens-là, c'est qu'il y a une musicalité qui est encore plus fabuleuse. Et on oublie la technique, on oublie que ce sont des virtuoses, ce sont des génies, parce qu'ils nous emmènent dans un univers... Moi, j'ai écouté en boucle parce que, en fait, soit tu écoutes, tu sais, tu te mets à écouter Chick Corea, donc tu écoutes tout ce qu'il fait au clavier, et là, tu es subjugué. Puis après, tu dis, je vais écouter, mais un peu plus la batterie cette fois-ci, ou un peu plus la contrebasse. Et là, tu te dis, mais c'est pareil, quoi, c'est monstrueux partout. C'est partout monstrueux. Voilà. Donc après, évidemment, il y a des morceaux qu'on aime plus que d'autres, mais c'est un univers, c'est une proposition musicale qui est exceptionnelle, de toute façon.
Alors, Jean-Baptiste Loussier, tu es pianiste. Tu as étudié le piano avec Pierre Sancan au Conservatoire National Supérieur de Musique, puis à l'École Normale de Musique, à Paris toujours, avec Serge Petit-Girard et Madeleine Giraudot-Basset. Après des classes d'analyse musicale, des cours de composition également, tu deviens finalement diplômé de piano, d'harmonie et de contrepoint.
C'est des titres un peu pompeux, mais c'est des étapes importantes quand on étudie la musique, parce que ça rassure aussi de se dire qu'on a passé un cap, même si c'est pas là que la musique se passe, bien entendu. Mais ça construit un petit peu, voilà. Et puis c'était une période qui était riche, parce que comme la période quand on est étudiant, parce qu'en même temps, il fallait que je gagne un peu ma vie aussi. J'étais déjà un peu parti de la maison, on va dire. Et donc pendant quelques années, j'avais passé un concours en parallèle qui était d'être le pianiste accompagnateur à l'Opéra de Paris. Et du coup, j'ai réussi le concours et je me suis retrouvé à accompagner à la fois les ballets de l'Opéra en répétition avant qu'ils se produisent sur la scène de l'Opéra de Paris. Mais pas que, j'ai aussi accompagné les petits rats quand ils passaient toutes les étapes pour grandir, les catégories, etc. Donc ça, c'était très très émouvant parce que sur 4-5 ans, tu les voyais grandir. Progresser, devenir des vrais danseurs. Et puis j'ai eu la chance de un tout petit peu accompagner des gens comme Baryshnikov, Patrick Dupont aussi, quand ils faisaient de la barre, tu vois. Puis l'Opéra de Paris, je ne sais pas si vous avez déjà visité l'arrière, la partie des artistes, c'est fabuleux, quoi. C'est extraordinaire, extraordinaire. Voilà.
Tu avais été immergé dans cette culture de musique classique, de ballet.
Beaucoup, beaucoup. Ouais, mais en fait, mes parents, mon père était musicien, ma mère était extrêmement sensible à la musique, elle était mélomane avec une grande culture musicale. Donc toute la famille, on a toujours eu la chance d'être immergé totalement dans la musique. Alors comme mon père, lui, c'était du classique transposé avec du jazz, puisque c'était le trio playback Jacques Loussier. Et donc on était nourris un petit peu avec cette musique, mais la rigueur voulait qu'on passe par la musique classique. Donc effectivement, c'est ce qu'on disait un petit peu, c'est les gammes, la rigueur de jouer des préludes de Bach avant d'attaquer des morceaux un peu plus ambitieux, etc. Et c'est vrai je me suis forgé une culture déjà un petit peu comme ça. Et puis là-dessus, c'est greffé mes goûts extrêmement développés pour la pop anglaise. Dans les années 80-90, où j'ai acheté tout ce que je pouvais avec mon argent de poche pour développer ma culture de la musique anglaise, pop anglaise. Voilà.
Alors, sauf que c'est quand même la rencontre avec le 7e art qui va transformer au moins en partie ta vie, puisque tu es attiré par cette musique à l'image. Mm-hmm. Et un jour, tu composes le thème de la musique d'une campagne publicitaire pour Akai en Angleterre. Je précise que tu as 13 ans et que ce sera ta première expérience de musicien professionnel.
Ouais. En fait, mon père était très connu en Angleterre et il faisait déjà pas mal de campagnes de pub pour Benson & Hedges, tout ça. Il était bien implanté dans ce domaine-là, là-bas. Et donc, de temps en temps, on lui proposait des commandes, en fait, on va dire. Et donc, une fois, il m'a un petit peu mis au défi, mais c'était aussi pour m'aider peut-être à prendre mon envol aussi. Et il m'a dit, écoute, là, on m'a commandé une musique pour Akai. Et il m'a dit, moi, je vais faire deux thèmes et je te laisse le troisième. Donc, moi, j'étais quand même un peu stressé, je veux dire. Mais en même temps, c'était assez excitant. Et du coup, j'ai fait un petit thème comme ça au piano. Et à l'époque, j'étais extrêmement influencé par Morricone. J'écoutais en boucle tout le temps la musique de « Il était une fois dans l'Ouest » avec l'harmonica. Je suis un grand fan de ça. Et donc, je me suis vraiment inspiré de cette époque, de cette musique-là, pour proposer ma petite version d'une proposition pour Akai. Et puis, à la grande surprise de tout le monde, c'est ce thème-là qui a été choisi, quoi. Donc, du coup, ça fait l'objet d'une orchestration pour laquelle mon père a énormément collaboré, il faut être honnête. Mais la construction du thème, les harmonies, tout ça, c'est moi qui les avais proposé avec une version au piano qui, comme les pubs, c'est pas très long, hein, mais c'était une musique d'une minute à peu près, quoi. Voilà. J'aurais jamais pensé que ça soit la mienne qui soit choisie, mais c'est ce qui s'est passé. Ouais. Voilà. Ça rassure, quelque part, c'est sympa.
Bravo. Alors, tu as évoqué Sergio Leone. Ce qui me vient à l'esprit, c'est le couple avec Ennio Morricone, bien sûr. Mais tu as collaboré avec Sergio Leone pour la musique de Une Amérique de légende.
En fait, j'ai collaboré pas avec lui, mais j'ai collaboré avec son monteur, qui s'appelle Jean-François Giré, qui a beaucoup été monteur pour le cinéma, pour Truffaut, pour Leone, etc. Et de par sa culture et sa connaissance justement de Leone, on lui avait demandé un film sur lui, sur Leone. Voilà. Et donc Jean-François, avec qui j'ai fait beaucoup de musique de film, m'a contacté et on est parti dans un hommage à la fois à Leone, mais aussi à Morricone, ce qui n'était pas simple non plus, parce que soit tu partais un peu trop dans l'ambiance de Leone et là tu te fais, enfin de Morricone pardon, et tu te fais défoncer parce que ça sert à rien de faire du sous Morricone. Donc j'ai trouvé une petite piste intermédiaire entre tout ça, puis un peu quand même en hommage à la musique italienne, parce que moi quand je pense à ça, je pense aussi à Nino Rota, à toutes les musiques qu'il a pu faire pour Casanova, des choses comme ça qui moi, m'ont énormément marqué. J'adore ça. J'adore cette orchestration de cette époque avec ses mélodies extraordinaires. Voilà, ce sont des mélodistes, c'est ça que j'adore. Ouais.
Alors on pourrait penser, d'après notre conversation jusqu'à maintenant, que tu es un musicien de laboratoire, mais pas du tout, puisque tu fais aussi de la scène et tu collabores en particulier avec une chanteuse. Dani, avec des duos piano-voix, et tu produit et tu réalises même un album avec elle en 2013.
Ouais. En fait, Dani, je l'ai rencontrée par hasard par un ami commun qui était Pierre Grillet, qui était un parolier qui a travaillé beaucoup avec Bachung et pas mal de monde. Et au pied levé, comme ça, c'était pour un concert à l'époque aussi d'Action. Je l'ai rencontrée et je l'ai accompagnée sur 5-6 morceaux au pied levé pour la soirée du site d'Action. Comme ça s'est bien passé entre nous, on a démarré comme ça pendant plusieurs années toute une série de concerts en Europe, piano-voix, ouais. Et après, on s'est dit, on va faire un EP 5 titres et on va proposer à 2-3 justement musiciens d'électro pur, puisque moi, ce n'est pas mon cas, d'amener à partir de mes bandes, de mes pistes à moi, de ma version, eux proposer une nouvelle version alternative. Voilà. Et donc, on a fait comme ça un EP 5 titres qui était assez marrant, je veux dire.
Voilà. Donc, Jean-Baptiste, on en vient à la première question de qu'est-ce que t'écoutes ?
Ouais.
Et précisément, quel est le disque que tu emporterais sur une île déserte ?
Errol Garner.
Donc, Errol Garner.
That's My Kick. Voilà, ça c'est le disque et le titre du morceau. Depuis que je suis petit, je l'écoute tout le temps. En fait, l'île déserte, ça changerait pas grand-chose parce que je l'écouterais tout le temps.
Tu l'as toujours avec toi.
Ah, j'adore. J'adore ce disque. Il m'a vraiment marqué quand je l'ai entendu la première fois. Et il serait merveilleusement bien utilisé sur une île déserte parce que ce disque génère de la joie, de l'énergie, de la légèreté, de la spiritualité. Il y a très peu de disques, en tout cas très peu de disques qui me procurent tout ça à la fois, quoi. Et aucun moment où on en a marre de l'écouter, en fait. On pourrait le mettre en boucle tout le temps, toute la journée, et c'est comme si tu te prenais une nouvelle piqûre de bonne volonté, de bonheur, de je sais pas quoi. C'est fantastique. Il n'y a pas beaucoup de disques comme ça, je trouve. Après, il y a d'autres albums qui peuvent générer plein de choses très positives, mais lui, il y a une légèreté dans cet album. Et c'est Errol Garner, quoi. Il a une façon de jouer du piano, c'est soyeux, c'est fantastique. Moi, c'est un de mes préférés, quoi, comme pianiste de jazz, je veux dire, top, vraiment top, j'adore.
Alors, That's My Kick, c'est le titre de l'album, c'est aussi le titre du morceau que tu as choisi et qu'on va écouter tout de suite.
Génial.
Thank you.
parler de ce disque qui est ton all-time favorite, on va dire. Il est sorti en 1967 sur le label MGM. Il a été réédité en France, hein, d'ailleurs, en 85, et puis plus récemment par Mac Avenue, remasterisé également en 2020.
Ouais, j'ai vu ça.
Et ça permet de réécouter cet album. C'est vrai qu'il est assez éloquent dans le sens où on note une liberté assez incroyable dans son jeu.
Le son du piano, la liberté dans son jeu. Il a une façon de swinguer, de se promener sur la rythmique, tout ça, mais personne ne peut faire ça, quoi. Il n'y a que lui. Mais c'est marrant parce qu'il y a des gens comme ça, c'est ce que je trouve très important dans la musique en général, c'est le style. Et tu as des gens comme ça qui, tu entends deux notes, tu sais qui c'est tout de suite. Il n'y a pas d'hésitation, quoi. Et Earl Garner, moi, tout de suite, tu sais que c'est Earl Garner, quoi. Et puis, sans parler de sa voix, tu sais, t'entends, il ponctue une phrase ou un trait musical, à part sa façon de commenter avec ces sortes de gargarismes, je sais pas comment on appelle ça, bourgogne. C'est assez. C'est pas le seul à faire ça, mais lui, ça. Voilà. Ça fait partie du son, quoi.
Pour le About Jazz, c'est un des disques, une des sessions les plus free qui est réalisé.
Ah, carrément,
ça, Garner, Earl Garner, avec une joie qui est communicative aussi.
Non, mais c'est pour ça, si tu es seul sur une île, c'est dur quand même. J'aimerais pas. Hein.
Ça peut, hein, ouais.
Voilà, donc t'imagines, t'entends ça qui sort des haut-parleurs dans les cocotiers, je sais pas où. Non, mais c'est fabuleux, quoi. Ça, au moins, tu te dis, je vais peut-être trouver du poisson à manger aujourd'hui. La déprime n'existe pas. Ah ouais, il n'y a pas de déprime là. Tu peux pas. Au début, tu l'es, mais au bout d'une minute en écoutant ça, tu.
C'est un feel-good album.
Ah ouais.
Alors, Jean-Baptiste, c'est la deuxième question. Qu'est-ce que tu écoutes en ce moment? Quel est le morceau qui t'a accroché, la dernière découverte?
Je réponds partiellement à ta question, mais justement parce que je n'ai pas eu l'occasion de vraiment l'entendre et que je meurs d'envie de l'entendre. En fait, je suis depuis pas mal d'années Damon Albarn, donc Gorillaz, mais les projets de musique avec Gorillaz sont pour l'instant pas d'actualité, puisqu'il vient de faire La Flûte Enchantée 2, qui est une commande qui a été faite par quelqu'un à Paris. Alors, je ne sais plus comment il s'appelle. En tout cas, il y a eu une avant-première et il y a eu 6 ou 7 spectacles qui ont été joués au Lido à Paris. Je le suis, en fait, Damon Albarn. Donc, je savais qu'il y avait ça. Si j'ai bien compris, il y avait un livret de Goethe qui avait été plus ou moins élaboré pour aller plus loin que ce qu'avait fait Mozart dans une sorte de suite. Je ne sais pas très bien. Et on lui a confié à lui la responsabilité de peut-être faire quelque chose avec ça. Ce qui est un cadeau empoisonné quand même, il faut être honnête. Et moi, j'ai juste entendu des extraits de son travail, mais je reste totalement sur ma faim parce que je ne sais pas si c'est réussi en même temps, tu vois. C'est un vrai challenge parce que là, il se met vraiment dans sa zone d'inconfort absolu. Ce n'est pas du tout sa culture en tant que musicien, je ne parle pas en tant que mélomane. Hein. Et c'est ça qui est génial chez Damon Albarn, c'est qu'il se jette dans un truc, il ne sait pas du tout s'il sera capable d'y arriver.
C'est l'exercice qui t'a interpellé.
Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, le côté crossover de l'univers de Damon Albarn avec Mozart et La Flûte Enchantée et l'opéra, si tu veux, tu m'aurais parlé de ça il y a 10 ans, j'aurais dit il n'y arrivera jamais, c'est pas possible. Mais en même temps, ce type, il a tellement d'appétence pour les nouvelles aventures artistiques, musicales, tout ça, qu'il y est allé, quoi. Et c'est pour ça que, du coup, quand tu sais que ça existe, mais que tu n'as pas vraiment eu l'occasion de l'entendre, c'est une vraie frustration. Mais du coup, j'ai très envie de l'entendre, vraiment.
Et alors, du coup, pour répondre à cette question, qu'est-ce que tu écoutes, on écoute quand même un morceau de Damon Albarn?
Lequel?
C'est à toi de nous le dire.
Celui dont je vous avais... je l'adore.
Souk Ai.
Voilà, Souk Ai, je ne me rappelle plus de son nom. Qui démarre avec 2-3 accords comme ça, et puis ça gonfle, et je trouve qu'il est extrêmement émouvant, ce morceau. Il est sur l'album, il est en dernière, 8 ou 9 vers la fin, quoi. C'est pas un morceau qui a été mis en avant comme si c'était une accroche forcément.
Oui, c'est le dernier de l'album, c'est le dernier de la deuxième phase.
Alors qu'il y a une charge émotionnelle que je trouve peut-être une des plus fortes de l'album, justement. Donc,
On écoute.
On l'écoute.
Alors ce morceau de Damon Albarn, Souk Ai, qui sort sur l'album The Now Now en 2018, tu parlais de cette difficulté de l'exercice à intégrer à la fois un morceau de musique classique et de l'interpréter, et en tout cas de le mélanger, de lui donner une couleur tout à fait moderne, mm-hmm. par les arrangements, par les instruments qu'on utilise. Et ça t'a interpellé parce que finalement tu es sur un projet un petit peu similaire.
Oui, j'ai voulu avec un ami producteur faire une sorte d'hommage à mon père qui avait fait des playbacks à l'époque, donc en jazz, en partant de Bach. Et ce crossover, on s'est dit qu'il y avait peut-être une solution pour faire une nouvelle proposition. Et à force de travail et de réflexion, j'ai trouvé une piste qui était très intéressante. Et justement, ça a rejoint la conversation qu'on a eue tout à l'heure, où je suis allé me ressourcer dans mes souvenirs d'enfant, justement, quand j'avais rencontré tous ces gens au studio à Miraval. Et accessoirement, j'avais aussi observé leur façon de travailler, leur exigence pour le détail, pour le son. Passer des heures pour un détail sonore, c'était incroyable. Quoi. Donc cette exigence absolue artistique. Ouais. Et modestement, c'est des ingrédients que j'ai voulu réutiliser. Parce que moi, je conçois beaucoup la musique comme ça. Je trouve que soit on est dans une configuration de musique avec des instruments acoustiques, donc après ça va être le talent des interprètes, évidemment, le son des interprètes, mais on est... dans un cadre que tout le monde connaît, ça sera le piano, ça sera les cordes, ça sera des choses avec une réglementation sonore qui est connue et qu'on ne peut pas tellement altérer. On va dire. Alors que quand on part dans des délires de réglage de son avec des synthés, avec tout ce qu'on imagine, pour essayer de créer une palette sonore un peu particulière ou tout au moins on essaie un peu original ou personnel, là, si tu es très exigeant, tu peux te perdre totalement et passer 3 jours sur un son. Et ça, je suis pas le seul à le dire, évidemment. Hein. Et c'est malheureusement, c'est mon problème, ça. C'est-à-dire que je suis capable de passer beaucoup de temps pour un truc qui est, au final, dans le résultat du morceau, insignifiant, on peut le dire.
Alors, Bach serait-il dans l'air du temps ?
Alors, quand on a réfléchi à Bach, la piste, évidemment, d'essayer de faire une nouvelle proposition de jazz ne tenait absolument pas, parce que personne, et je le dis très objectivement, hein, ne pourra refaire aussi bien que mon père ce qu'il a fait. Ça n'a aucun sens d'aller vouloir faire du jazz derrière lui avec Bach. Donc moi, je me suis appuyé, voilà, comme je disais tout à l'heure, sur ma culture personnelle, sur mes souvenirs d'enfant, et je suis allé dans le monde de la pop. Le monde de la pop avec, en plus, des petites touches d'électro, parce que ça fait partie aussi de ce qu'on peut imaginer dans une palette sonore.
Oui, et puis tu aimes bien les synthés quand même, tu aimes bien les claviers.
J'aime beaucoup les synthés, j'aime beaucoup ça. Et puis la chance maintenant... Soit on a un immense studio où on stocke tous les synthés qui existent depuis 60 ans, et là c'est un sacré boulot d'intendance, d'entretien, enfin, hein. Sauf que maintenant il y a évidemment des plugs qui prennent une toute petite place dans une tranche sur une console numérique dans l'ordinateur et qui te proposent l'intégralité de tous les synthés depuis 60 ans.
Dans cet album Back to Back à sortir. Donc,
voilà, donc il sort normalement en octobre justement. Dans cet album, il y a 11 titres. Il y en a 9 où j'ai fait chanter. En fait, je me suis associé artistiquement à une chanteuse parce que je ne me voyais pas faire un disque uniquement instrumental. Donc, j'ai choisi les morceaux de Bach par rapport à la façon dont je pourrais les utiliser avec une chanteuse. Voilà. Et donc, au final, il y a des morceaux où il y a vraiment une mélodie de Bach et d'autres où c'est juste sur un motif de Bach. C'est-à-dire qu'il y a une mesure de Bach. Et en fait, c'est une composition personnelle, en fait. Tout le reste, c'est de la compo, même la mélodie de la chanteuse, tout ça. Et la chanteuse s'appelle Jody Sternberg. C'est une des anciennes chanteuses d'un groupe qui s'appelle Morshiba, donc qui était un groupe de trip-hop assez connu en Angleterre, qui a une
bien,
très, très belle
très
voix.
Connu, oui,
ouais,
bien
ouais,
sûr.
Très connu. Et donc, elle s'est associée à... On a fait vraiment étape par étape, un morceau, OK, ça marche. Un deuxième, OK, ça marche. Et comme ça, on arrive à 7, 8, 9... Et je lui ai laissé toute liberté pour écrire les paroles sur tous les morceaux. Et par contre, ce qui est musical, mélodie, tout ça, je check tout. Voilà. On a un rapport de travail qui est très équilibré, ça se passe très bien. Voilà. Donc c'est à l'arrivée, c'est une version voilà, de Bach qui va se promener beaucoup dans la pop à l'anglaise, hein, modestement, je dirais. Voilà. Ouais.
Oui, avec l'apport particulier de la voix de
Jody. Jody, ouais. Ouais, exactement. Donc moi, je peux vous montrer, par exemple, sur un morceau qui est plutôt, pour le coup, instrumental, puisque Jody n'est pas avec nous, quel est l'original que je peux jouer 2 minutes au piano, et puis je peux jouer le début avec l'ambiance du disque, si vous voulez.
Super.
Voilà.
Ça nous fera plaisir, voilà. Dis donc.
Donc c'est la sicilienne en sol mineur de Bach. Voilà. Donc je joue un petit bout au piano, puis après je jouerai avec la version sur l'album.
Jean-Baptiste, on arrive à la question finale de Qu'est-ce t'écoute. Si tu te trouvais face à l'artiste que tu admires le plus, quelle question lui poserais-tu ?
L'artiste en question, c'est évidemment Bach. Et la question, moi je lui demanderais, est-ce qu'il aurait imaginé qu'au XXIe siècle, sa musique soit à ce point-là centrale dans le monde de la musique ? Et voilà, c'est la question que j'aurais posée.
Merci Jean-Baptiste pour ce beau moment passé en ta compagnie avec toutes ces informations et puis beaucoup de choses qu'on a apprises avec toi.
Ouais, bon, tant mieux.
À bientôt.
À bientôt Jean-Baptiste. Avec grand plaisir. Et merci encore.
Voilà, Qu'est-ce t'écoute, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous, on se retrouve mardi 6 mai pour un nouvel épisode. Ciao.
Ciao.